Autoradio, la radio nouvelle génération.
On va commencer. Alors, je remercie vraiment Jean de Maillard que je vais présenter rapidement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette troisième conférence du premier cycle de l'Université populaire. Donc Jean de Maillard est magistrat et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, a publié cet ouvrage en 2004, qui est en fait une reprise d'un rapport que lui avait commandé en 2001, avant le 11 septembre, le ministère des Affaires étrangères français sur les nouvelles menaces. Et il a beaucoup travaillé sur ce sujet. Au cœur de ces menaces, il y a l'économie criminelle et l'économie criminalisée. Et il va démontrer dans son propos, qui va s'éloigner relativement de cet ouvrage que vous trouvez désormais à la bibliothèque d'Arcueil, qui s'appelle « Le rapport censuré, critique non autorisée d'un monde déréglé », donc paru en 2004. Il va montrer comment, en quelques décennies à peine, on est passé de l'incrustation de la criminalité dans l'économie légale à l'irradiation de cette criminalité au sein de cette économie, et l'incorporation de l'économie criminelle à l'économie tout court étant la troisième étape dans laquelle, selon lui, nous sommes installés, et on devisait, avant de commencer, de son point de vue, durablement et très durablement installés. Alors, pour vous faire saliver, même si je sais qu'il va, et c'est tout l'intérêt de son apport, et je le remercie encore, il ne va pas simplement se cantonner à cet ouvrage, il va nous parler de ses actuels travaux et de l'évolution de la situation d'une certaine manière telle qu'il la regarde entre 2004 et maintenant. Je voudrais vous lire deux petits extraits, s'il me permet, de son ouvrage. Vous me le permettez?
Je ne sais pas lequel vous allez lire. Donc.
Mais parce qu'ils me paraissent très 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 forts. Donc à propos de cette... De l'économie criminelle, de l'économie criminalisée, peut-être il reviendra sur la distinction qu'il fait entre les deux, l'économie criminelle étant l'économie délibérément criminelle, et l'économie criminalisée, c'est l'économie qui justement a été irradiée, contaminée, je dirais, par le crime. Il dit « Les États s'étant très largement dépossédés de la maîtrise et du contrôle des flux internationaux, que ces flux soient des hommes, des marchandises, de l'information ou des actifs financiers, la mauvaise économie, selon une sorte de loi de Gresham généralisée, chasse la bonne. La métaphore monétaire vaut pour l'économie tout entière. Lorsque l'économie criminelle est aussi ouverte que l'économie légale, la tendance à la criminalisation de l'économie légale est inexorable. L'économie illégale entraîne une création artificielle de valeur par la prohibition. » Premier, on se souvient de la prohibition de l'alcool aux États-Unis à partir de 1919 et ce qu'elle a généré, et permet le contournement des règles qui alourdissent les coûts de l'économie formelle. Les agents économiques qui travaillent dans l'économie légale sont ainsi poussés soit à basculer entièrement dans l'économie illégale, soit à lui fournir des services car elle assure des profits beaucoup plus substantiels que l'économie légale. Et tous les efforts qui tendent à réprimer la mauvaise économie, mais sans s'en changer les fondamentaux, ne font qu'accélérer le phénomène de substitution de l'économie illégale à l'économie légale. Et puis le deuxième extrait, que je trouve un peu plus loin, rassurez-vous, je vais m'arrêter, mais Jean de Maillard affirme clairement la chose suivante. Tous les pays riches disposent de leur propre paradis bancaire, judiciaire et fiscal. Ce que j'aime beaucoup pour vous avoir lu, c'est que vous ne vous contentez pas de la formule facile des paradis fiscaux. Un paradis fiscal, ce n'est pas seulement qu'un paradis fiscal, c'est un paradis bancaire, c'est un paradis judiciaire. En général, un territoire périphérique ou exotique bénéficiant d'un statut dérogatoire au droit commun. L'État dont dépend ce territoire lui accorde un statut international particulier, derrière lequel il se réfugie ensuite pour objecter son impuissance à réglementer ce qui s'y passe. Le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein se sont érigés en paradis bancaires, judiciaires et fiscaux, servant ainsi de territoire périphérique aux autres États plus importants situés dans un périmètre géographique proche. Ils ont dû récemment réduire leur offre d'immunité légale sous l'effet de nombreux scandales et sous la pression des autres pays européens, embarrassés de leur visibilité au cœur ou aux frontières de l'Europe. Monaco a dû se faire également plus discret. Aucun de ces pays n'a cependant renoncé complètement à fournir les avantages juridiques et financiers qui permettent de contourner la légalité internationale et celle des autres pays. Et pour ne pas être en reste, la Grande-Bretagne a une politique encore plus radicale. Outre ses territoires comme les îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey, qui d'ailleurs ont fait des progrès en matière de coopération judiciaire en raison des scandales qui les ont concernés, elle a organisé la City de Londres comme une sorte d'enclave juridique et financière inavouée dans laquelle les autorités judiciaires et policières se contentent de ne pas appliquer les règles d'une coopération loyale avec leurs partenaires. Voilà, la tonalité, et vous l'avez. Et nous allons voir, grâce à cette conférence, jusqu'où va cette incorporation de l'économie criminelle dans l'économie tout court. Merci Jean de Maillard d'être là.
Merci aux banques sans foi ni loi. Le pouvoir d'achat ne me connaît pas. La seule bourse, c'est bien pour moi. C'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour tout.
Automatique, auto-clectique, auto-radio, auto-radio.
Merci de cette présentation. Je ne me souvenais plus de ce passage et finalement, il me permet de vérifier que ce que j'ai dit il y a quelques années est toujours aussi valable aujourd'hui et qu'on recommence aujourd'hui à nous parler des paradis bancaires et fiscaux puisque c'était au menu du G20. Et j'ai été interrogé par Libération il y a quelques jours et j'ai pu redire exactement la même chose en disant qu'effectivement, c'était une nouvelle mascarade qui se préparait. Il m'était d'ailleurs revenu, je fais une petite digression, puis après je viendrai à mon sujet, cette phrase que j'avais entendue, que m'avait dite un jour un directeur du FBI, un ancien directeur du FBI, à propos de la criminalité organisée, et que j'ai trouvé d'une profondeur extraordinaire, quand je lui avais demandé, mais est-ce que vous pensez qu'on peut vivre avec la criminalité organisée? Et il m'avait dit, une femme ne peut pas être seulement un tout petit peu enceinte. Et j'avais trouvé cette formule remarquable de concision, de justesse et de vérité. Et je crois qu'on peut dire la même chose des paradis bancaires, judiciaires et fiscaux, pour lesquels on a simplement entrepris, nous dit-on, une moralisation. Sur lequel d'ailleurs on pourra revenir dans la discussion si vous voulez, qui en réalité ne changera certainement rien du tout puisque on pourra réécrire ce que j'ai écrit il y a quelques années. À chaque fois, les paradis bancaires et fiscaux et judiciaires font des offres de régularisation de leur pratique déloyale. Et parfois même criminel, simplement le temps que le courroux international s'apaise un petit peu, et après, je vous rassure, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, je crois que votre thème cette année, c'est autour de la démocratie.
Oui,
je ne sais pas exactement d'ailleurs comment il s'intitule.
La démocratie.
Bon. Alors, en fait, je ne vais pas vous parler de la démocratie, je vais vous parler de son contraire.
Donc vous allez en parler en fait.
Je vais en parler en creux, je risque de ne pas prononcer le terme une seule fois, donc c'est pour ça que je vais en abuser un petit peu dans mon introduction, parce qu'il va très vite disparaître, puisqu'en réalité, tout ce dont je vais vous parler, c'est justement de ce qui, à mon avis, fait que nos sociétés contemporaines, justement, ont trouvé d'autres moyens de fonctionner que la démocratie, qui reste, l'avant-scène du décor, mais derrière le rideau, c'est tout à fait autre chose qui se passe. Et je dirais même d'ailleurs qu'il y a peut-être plusieurs champs, plusieurs profondeurs sur cette scène de théâtre de la vie publique et de la vie internationale. La première, donc, celle dont on nous parle, c'est la démocratie. La deuxième scène, enfin, ou le deuxième décor, c'est l'économie. Et le troisième décor, c'est la criminalité. Et Je vais commencer par une autre citation à laquelle je pense souvent depuis que la crise des subprimes a éclaté, et à laquelle je pense encore plus depuis quelque temps, depuis que l'on nous parle de moraliser le capitalisme. C'était une phrase de Fontenelle qui disait « Ne disons pas du mal du diable, c'est peut-être l'homme d'affaires du bon Dieu ». Je crois que ce contre quoi nous mettait en garde Fontenelle, à l'époque, nos moralistes avaient peut-être plus de profondeur, c'était justement contre un excès de moralisme et un excès de crédulité dans les capacités de la morale en tant qu'instrument de régulation. Je crois donc que cette phrase vient très bien en introduction de mon propos, déjà pour planter ce décor que j'évoquais à l'instant, pour qu'on ne se fasse pas d'illusions. Ce n'est pas un problème de morale. La morale n'a rien à voir dans l'affaire. Le problème est un problème de régulation de nos sociétés et de savoir finalement ce que nous voulons pour nos sociétés. Nos prédécesseurs dans la vie publique et dans la vie tout court, il y a deux siècles ou plus, ont cru à la démocratie. Ils nous ont légué des institutions, ils nous ont légué des principes et des valeurs qui sont celles dont nous nous nourrissons, en tout cas dans les discours. Et puis, depuis une trentaine d'années, on nous a dit il y a mieux que la démocratie, finalement. Enfin, on ne nous l'a pas dit comme ça, mais on nous l'a fait comprendre. Il y a mieux que la démocratie, c'est finalement l'économie, c'est le marché, puisque la démocratie, c'est compliqué, il faut se mettre d'accord. Tandis que le marché, c'est beaucoup plus simple. Souvenez-vous d'Adam Smith, qui lui était un moraliste, mais un vrai, qui disait en substance, peu importe que le boucher, le boulanger ou le brasseur de bière ne pensent qu'à leur propre intérêt, du moment qu'ils nous font du bon pain, qu'ils nous vendent de la bonne viande et qu'ils brassent de la bonne bière. Finalement, c'est tout ce que nous leur demandons. Donc, qu'ils soient égoïstes, ça sera pour le plus grand bien du marché et nous nous y retrouverons tous. Ils vendront de bons produits. Comme ils seront en concurrence entre eux, entre boulangers, bouchers et brasseurs de bière, ce sont les meilleurs qui parviendront à émerger du marché. Et de cette manière, tout sera pour le mieux, dans le meilleur des mondes économiques possibles. Oui, certes, sauf que les choses ne marchent pas comme ça. Et je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit dans ce livre que vous citiez, que j'ai publié déjà il y a quelques années, où, d'ailleurs, je n'avais aucun mérite, je faisais simplement que reprendre Braudel, Fernand Braudel, et qui, avec la maestria qu'on lui connaît, avait déjà décrit le fonctionnement de l'économie lorsque il expliquait que il y a en réalité différentes économies. Il y a l'économie traditionnelle, qui est une économie de troc. Il y a ce qu'on appelle l'économie de marché, qui est en fait une économie qui se situe juste au-dessus, mais qui, dans la réalité, ne représente que peu de choses. Pourquoi en parle-t-on tant de l'économie de marché ? Mais il disait parce que c'est la seule dans laquelle les échanges se font à visage découvert, se font ouvertement. Et donc les économistes, en réalité, se sont laissés prendre au piège de l'économie de marché. Ils ont parlé de ce qui se voyait. Ils n'ont pas parlé de l'économie traditionnelle qui échappe finalement à la rationalité, à la possibilité de mettre des équations sur des comportements humains. Et puis surtout, ils ont oublié le troisième niveau, ce que Braudel appelait le contre-marché, qui est en fait cette sphère dans laquelle les agents économiques ne fonctionnent plus selon la loi de l'offre et de la demande. Ils fonctionnent selon des alliances avec les princes, avec les États. Et ce sont les grands financiers de la Renaissance, ce sont plus tard les grands industriels du XIXe et du XXe siècle, et puis aujourd'hui ce sont purement et simplement les banques et les financiers qui sont devenus le contre-marché et qui eux aussi échappent au regard. Donc déjà tout cela nous indique quelque part qu'il faut se méfier de ce qui paraît évident, il faut se méfier de ce qu'on nous présente toujours comme le bon sens et comme finalement des comportements qui pourraient être décrits et décrits de façon rationnelle. Derrière tout ce qu'on nous présente, quand on nous parle de politique et de démocratie, où on fait appel à des comportements qui seraient des comportements, je dirais, qui annonceraient la couleur, permettez-moi cette expression triviale, derrière des fonctionnements de l'économie qui eux aussi annonceraient la couleur, il y a beaucoup d'autres choses à l'œuvre qui, elles, n'annoncent pas la couleur. Et il y a notamment un troisième acteur qui intervient et qui, je crois, intervient lorsque les deux premiers, justement, ne sont plus capables de fonctionner. Quand le politique et l'économie ne fonctionnent plus, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive la criminalité, la délinquance, la fraude. Ce que je vous dis doit vous paraître curieux puisque, finalement, comme tout le monde et comme moi-même, vous avez certainement été formé à l'école de Victor Hugo, dans lequel on nous disait que quand on ouvre une école, on ferme une prison, et donc plus on va développer les capacités humaines, et plus on s'approchera du jour idéal où la criminalité, ce reliquat de sauvagerie et de barbarie dans nos sociétés, finira par disparaître complètement. Donc ça, c'est le programme d'Hugo. Marx en avait un autre, Proudhon également, et finalement, tous nos utopistes en ont eu un qui devait s'achever par la même disparition de ces vieux restes de sous-humanité que nous traînerions encore derrière nous dans nos tentatives de devenir cet homme idéal auquel nous pensons tous. La vision que je voudrais essayer déjà de vous faire partager ce soir, en tout cas si vous ne la partagez pas, vous ne me suivrez pas très longtemps dans mon propos, c'est que déjà il va falloir inverser cette façon de concevoir le monde. La criminalité n'est pas un résidu de sauvagerie, d'inhumanité ou de sous-humanité que nous traînerions derrière nous, collectivement ou individuellement, bien entendu. Nous serions tous quelque part avec cette appétence pour la délinquance ou le crime que simplement l'éducation nous permettrait de comprimer en nous-mêmes. C'est pas du tout cela. La délinquance ou la criminalité, déjà, je crois qu'il faut la voir comme, en fait, un mode alternatif de gestion de nos sociétés. Le crime a cette fonction-là, de gérer les rapports humains dans toutes leurs dimensions, politiques, économiques, sociales, voire juridiques, pourquoi pas, à la place d'autres institutions. Alors, je ne veux pas dire que, là aussi, il ne faut pas non plus se faire prendre au piège d'une vision utopique de l'histoire, que, finalement, le monde aurait commencé par demander à la criminalité de gérer les rapports entre les hommes dans une espèce d'état de nature qui serait donc la criminalité que l'autre manière d'appeler ce que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient l'état de nature, qu'ils soient Hobbes, Locke ou les autres, Rousseau ou tous les autres. C'est pas du tout ça. Parce que le crime, justement, je crois, je le dis en durkheimien convaincu, le crime naît avec la loi. C'est la loi qui crée le crime. Avant que la loi ne dise ce qui est criminel, il n'existe pas par définition de crime. Qu'est-ce que c'est que le crime, disait Durkheim ? C'est ce que la communauté sociale va réprouver dans sa conscience collective à tel point qu'elle va décider qu'il faut le punir. Il n'existe donc de crime que lorsque il existe une conscience collective suffisante dans un groupe humain pour pouvoir rejeter en dehors de sa conscience collective ses comportements qui lui sont devenus à partir de ce moment-là insupportables. C'est donc une manière pour le collectif humain de s'agréger autour de valeurs communes. Et pour définir des valeurs, il faut définir des contre-valeurs. Sans définition de contre-valeurs, on ne peut pas définir de valeurs. Mais le paradoxe que Durkheim lui-même n'osait pas regarder en face. Et donc, il disait simplement, le risque, c'est que nos sociétés évoluent vers de plus en plus d'anomie au fur et à mesure du fait que le lien social leur paraissant de plus en plus évident et se sophistiquant de plus en plus, les valeurs finiront par, disait Durkheim, finalement devenir de plus en plus délétères en quelque sorte, et donc on évoluera vers de plus en plus d'anomie. Je ne le crois pas. Je crois que le risque n'est pas celui-ci, ou en tout cas ce risque-là qui me paraît peu probable, s'en est substitué un autre, ou en est apparu un autre qui n'avait pas été perçu par Durkheim, parce que c'était peut-être trop incompatible avec sa représentation. Ce risque, c'est que, en fait, le crime lui-même devienne un mode de gestion de la société elle-même. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à tous égards à comprendre, y compris parce que c'est trop radicalement contraire à ce que nous pensons du crime, de la criminalité ou de la délinquance. Et pourtant, c'est une réalité quotidienne. Je vais me situer, je pourrais faire la démonstration, mais ça nous emmènerait trop loin et ce n'est pas l'objet de notre discussion de ce soir. Je pourrais faire la démonstration comment la criminalité ou la délinquance est un comportement qui est un mode de gestion du rapport des individus entre eux. Mais je ne vais pas me situer à ce niveau-là, je vais me situer sur le plan de la gestion des collectifs humains, des communautés, des sociétés, pour essayer de vous expliquer comment la criminalité est en fait un substitut, une variable d'ajustement du politique et de l'économie. Du politique d'abord. Et ça, historiquement, et c'est là que je reprends donc cette classification ou ce déroulement des trois étapes dont j'ai parlé à Jean-François Marguerin dans notre discussion préparatoire et qui l'a reprise tout à l'heure pour expliquer comment le crime va pénétrer progressivement nos sociétés, d'abord en s'incrustant, puis en s'irradiant, puis en s'incorporant. Et d'abord donc dans les institutions politiques, ou plus exactement à la place des institutions politiques. Alors ça, nous en France, nous n'en sommes pas familiers, nous ne l'avons pas vu, parce que nous avons eu la chance peut-être, encore qu'aujourd'hui on nous dise que ça n'est plus une chance du tout, d'avoir un État qui s'est historiquement constitué très tôt. Alors on peut le faire remonter à Philippe Auguste, à Saint-Louis, à Louis XIV, à Napoléon ou au XIXe siècle, peu importe à la limite. Mais je crois qu'en fait toutes ces explications sont vraies. Nous sommes en France dans une tradition de centralisme du pouvoir qui traverse et qui est un fil directeur qui explique toute la tradition politique française depuis la sortie du Moyen-Âge et même peut-être avant, finalement. Peut-être on pourrait aussi remonter à Charlemagne. Et donc nous avons, nous, été protégés un petit peu comme, disons, par une chape étatique qui très longtemps nous a protégés de phénomènes de substitution du criminel au politique. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir comment le politique peut, dans certaines circonstances historiques, s'instaurer, comment l'État central peut s'instaurer déjà dès le départ par des voies de délégation criminelle. C'est l'exemple de l'Italie. L'Italie, avec donc la constitution d'un État central à la fin du XIXe siècle, va vouloir donc créer un État un petit peu à l'image de l'État français, mais dans une réalité sociologique qui est totalement différente, qui est un pays éclaté sur le plan politique. Les États, cités, républiques italiennes, etc., c'est une mosaïque de pouvoirs politiques qui, eux-mêmes, ces pouvoirs politiques, qui vont être remplacés par l'État unitaire italien, sont en symbiose avec des sociétés extrêmement archaïques qui, notamment, plus on descend vers le sud de l'Italie, plus elles sont structurées sur un mode féodal, donc de relations clientélistes. Donc on a à la fois des sociétés une société de type féodal sur le plan sociologique, avec des pouvoirs qui n'ont pas de conception unitaire et centralisée, moderne, de la politique. Et donc au moment où on va créer artificiellement l'État italien, cet État va négocier littéralement son propre pouvoir dans le sud de l'Italie, et plus particulièrement en Sicile, et dans la botte de l'Italie, dans le bas de la botte de l'Italie, va négocier son pouvoir avec des élites locales qui sont issues des couches de la population qui pourraient remettre en cause cet ordre unitaire nouveau qui s'installe à ce moment-là en Italie. Et ces élites, c'est la mafia. Elles sont, qu'est-ce que c'est que la mafia ? Ce sont en fait des intermédiaires qui fonctionnaient d'ailleurs déjà dans les relations avec les grands propriétaires terriens, les grands aristocrates de la Sicile et du bas de l'Italie, pour faire fonctionner les grands domaines féodaux italiens, et qui vont devenir les interlocuteurs de l'ensemble des institutions nouvelles qui s'installent en Italie à la fin du XIXe siècle. Bien sûr, ça ne va pas être dit comme ça. Ça ne va d'ailleurs pas être dit du tout, puisque l'une des modalités de l'implantation du système mafieux en Italie va passer par la dénégation de l'existence même de la mafia. Donc, dans la dénégation totale de l'existence de cette élite qui constitue donc l'intermédiaire entre le pouvoir politique, les institutions et la population qui doit être tenue en main, puisque c'est ça sa fonction, c'est de faire régner l'ordre. Dans une délégation dans laquelle on dit à la mafia, on dit sans le lui dire, bien entendu, vous pouvez faire régner l'ordre de la manière que vous voulez, du moment que c'est l'ordre. L'ordre que nous voulons, c'est-à-dire notamment un ordre qui ne remette pas en cause notre légitimité politique. Et donc on voit apparaître une gestion de la légitimité politique par des illégalités. Et donc on voit se dissocier déjà ce qui était l'un des critères de la constitution de la modernité politique, qui était de réunir la légalité et la légitimité. Comment, si on veut résumer en quelque sorte ce qui caractérisait les systèmes politiques modernes, par rapport aux systèmes politiques féodaux du Moyen-Âge, c'est qu'il existait au Moyen-Âge une distinction entre la gestion de la légitimité qui appartenait au pape, à l'empereur, au roi, mais qui n'avaient pas les moyens de pouvoir asseoir leur pouvoir jusqu'aux confins, soit de la chrétienté, soit de l'empire, soit du royaume, et qui donc négociaient en permanence la gestion de leur légitimité avec des détenteurs de pouvoir qui, en réalité, géraient l'illégalité par rapport au pouvoir politique. Et donc, tous les systèmes modernes avaient consisté à réunir la gestion de la légalité et de la légitimité sous une autorité unique qui était celle des États, qui était sortie des traités de Westphalie, qui réunissait d'abord au travers de la religion, puis au travers de la sécularisation, de la laïcisation des États, puis de la démocratisation des États, qui réunissait cette gestion de la légalité et de la légitimité en ne conservant comme seul domaine de gestion de l'illégalité que ce qui appartenait à l'État. Ce qui me conduit à dire que la modernité politique consistait à réduire l'espace de l'illégalité légitime entre les seules mains de l'État. C'est-à-dire que l'État était le seul qui pouvait être autorisé à agir en dehors de la loi, puisque c'était lui qui disait quelle était la loi. Donc, il pouvait agir en dehors de la loi, par exemple, dans le domaine des relations internationales, où on est, comme aurait dit Hobbes ou comme aurait dit Locke, on est dans l'état de nature, ou bien pouvait agir en dehors de la loi, dans certaines circonstances, lorsqu'il estimait que la loi était un obstacle à la légitimité même de son pouvoir. C'est par exemple les services secrets qui agissent en dehors de la loi, mais qui sont un instrument nécessaire au pouvoir. C'est aussi tout le domaine dans lequel les États agissaient, dans le domaine économique du contre-marché dont nous parlait Braudel, qui était un domaine dans lequel régnait l'opacité des relations entre les puissants économiques et les puissants politiques, qui renforçaient leur pouvoir réciproque dans une alliance qui ne se décrivait jamais, qui ne se disait jamais, qui pouvait se voir éventuellement de temps en temps, mais qui n'était jamais dite. Tout cela, je reviens à l'Italie de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, tout ça n'existe pas dans un pays comme l'Italie, dans lequel l'État moderne est une invention récente qui n'est pas enracinée dans une création historique continue et ancienne, qui n'a pas donc pris racine. Et pour que l'État prenne racine, il va être obligé de développer des racines qui lui sont extérieures. Et ces racines, ça va être cette délégation, ce substitut criminel qui va venir donc appuyer, soutenir le politique. Et tout cela va bien entendu d'abord avoir une fonction politique et sociale. Mais dans les années 60-70, on va voir apparaître une nouvelle situation qui est celle du remplacement progressif du politique par l'économique. Je suis obligé d'aller très vite, bien entendu.
Vous avez tout votre temps.
Non, je n'ai plus que une petite demi-heure. Et donc, l'économique va remplacer le politique. À partir des années, on peut le dater à partir des années 70. Peut-être déjà, bien entendu, avant, ça a commencé, puisque dès après la guerre, en réalité, l'objectif des nations victorieuses du nazisme, qu'elles soient donc occidentales ou communistes, pas de l'URSS, va être de mettre en place une reconstruction et on va mettre en avant donc du support de la reconstruction politique, la reconstruction économique. Ça va être notamment la course économique entre l'Est et l'Ouest va être un petit peu le critère finalement de la validité du modèle politique sous-tendu par les deux modèles en présence. C'est bien au travers de leur capacité de reconstruction économique et technologique, ce qui va avec, que l'Est et l'Ouest vont entrer en concurrence. L'apothéose étant, par exemple, la conquête de l'espace, cette course effrénée des États-Unis et de l'URSS pour être le premier à aller dans l'espace. Et comme ce sera l'URSS qui y parviendra, la deuxième étape sera, et cette fois-ci avec la victoire des États-Unis, d'être le premier qui va sur la Lune. Et donc, l'arrière-plan de tout cela, c'est que la vérité du modèle économique déterminera la vérité du modèle politique. Celui qui gagnera cette course sera celui qui gagnera économiquement, et il gagnera économiquement parce que ses valeurs seront celles qui sont les mieux adaptées à ce modèle. Donc, dès 1945, il est clair que il y a en arrière-plan de la conquête politique, la conquête économique. Et derrière, c'est la conquête technologique qui est le moteur. Et dans les années 70, crise. Crise, pour tout un certain nombre de raisons, sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le modèle occidental va entrer en crise parce qu'il a atteint toutes les limites de capacité de croissance de ses propres institutions. Ces institutions, les institutions internationales et les institutions nationales, et notamment les institutions monétaires et financières qu'il a mises en place en 1944-45 à Bretton Woods pour faire fonctionner ce système, arrivent à l'épuisement. Et le système est en voie d'explosion. Et pour éviter l'explosion, les Américains vont sortir du système. C'est donc la déclaration de Nixon du 15 août 1971 qui sort, qui fait exploser le système monétaire international en rompant avec la convertibilité du dollar en or. Je ferme la parenthèse, mais ceci pour vous dire que le moyen que va trouver le système capitaliste, pour relayer son modèle économique et technologique, va être de sortir du mode capitaliste qu'il avait mis en place lui-même dans les accords de Bretton Woods, pour inventer un nouveau capitalisme. Et ce capitalisme devient un capitalisme financier. C'est ce qui change tout. En fait, c'est une révolution du capitalisme qui éclate en 1971, mais personne ne s'en rend compte. On imaginait que la seule révolution possible qui pouvait éclater, elle nous viendrait du communisme ou elle nous viendrait de la gauche. Et pas du tout. Elle est venue des capitalistes eux-mêmes, qui ont fait exploser les cadres de la vieille société bourgeoise capitaliste, et qui ont repris purement et simplement d'ailleurs le slogan de mai 68, il est interdit d'interdire, dans le domaine économique et financier. Et donc, le plus gauchiste, en quelque sorte, le plus libertarien de la vague de mai 68, ils seront deux, ça sera Reagan et Thatcher. J'aime bien pousser les paradoxes jusqu'à leur extrême. Et mais ce n'est qu'un paradoxe apparent, puisque en réalité, on a vu que, si vous vous intéressez par exemple de près au mouvement de pensée américain, que ce qu'on appelle les libertariens aujourd'hui, ce sont en fait ceux qui réunissent l'anarchisme de gauche avec l'ultralibéralisme de droite. Il y a eu une jonction des extrêmes qui s'est faite dans ce mouvement de pensée. Et le résultat de tout cela, c'est que on va voir en fait que ce qui s'était passé dans le domaine du politique avec l'Italie, il va se repasser de la même manière dans l'économique avec là, au travers de la financiarisation de l'économie. Puisque la financiarisation de l'économie, qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que se résume finalement cette révolution capitaliste? Elle se résume tout simplement à déréguler, à déréglementer, c'est-à-dire à chasser l'État moderne en tant que régulateur politique de l'économie. Et pour le remplacer par quoi? Le remplacer par les marchés, nous dit-on. Mais les marchés, qu'est-ce que c'est? Non pas les marchés, le marché dont parlait Braudel, qui était l'économie de marché. Braudel nous a expliqué que ça, c'est une toute petite partie, en réalité, de la réalité de la puissance économique. C'est toute la mauvaise économie. C'est toute l'économie clandestine, souterraine, toute celle qui a besoin des paradis bancaires et fiscaux, c'est celle-là qui va émerger. Celle qui, non seulement n'a pas besoin de régulation, mais qui ne veut pas de régulation. Parce que la régulation est un obstacle à son expansion. Et donc on va voir le même phénomène se produire, qui est finalement, qui se comprend très bien, qui est un phénomène extrêmement logique et rationnel, qui est l'application d'un dicton très simple, c'est que, entre guillemets, bien sûr, la société a horreur du vide. Et quand il y a un vide quelque part, il faut le combler. Si on ne comble pas un vide politique par un pouvoir délibératif, on le comble par un pouvoir autoproclamé, c'est tout. Si on ne comble pas les régulations de l'économie par des moyens de gouvernance, je vais employer un terme à la mode, qui projette dans un projet, qui projette des valeurs et qui soit capable d'anticiper en fonction d'un projet de développement sur lequel on a des idées, eh bien, on laisse, comme on dit, le marché faire les régulations. Mais est-ce que c'est vraiment le marché auquel croyait Adam Smith ? Pas du tout. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de ces explications, je crois que on peut faire appel à la sociologie et notamment à une théorie sociologique qui est la théorie fonctionnaliste, qui est notamment une théorie américaine. Je pense à un sociologue américain, Roland Warren, qui expliquait que toute communauté, quelle qu'elle soit, a besoin de remplir un certain nombre de fonctions. Très simplement, il donnait 5 fonctions, je ne sais pas si je vais me souvenir de toutes. Il disait d'abord, il y a une fonction économique, production, distribution, consommation. Dans tout groupe social, dans toute communauté humaine, il y a une fonction économique à remplir. Il y a une fonction aussi de contrôle social. Il faut être en mesure de pouvoir surveiller ce que font les individus pour les empêcher de faire n'importe quoi. Il y a une fonction de solidarité sociale qui est inévitable dans toute société constituée. D'une manière ou d'une autre, il y a des formes de solidarité sociale qui doivent jouer. Il en avait encore 2 autres qui m'échappent, mais peu importe. Je crois qu'il y en a une autre dont il faut parler, que lui n'incluait pas, sauf à dire qu'elle relèverait du contrôle social, qui est la fonction sécurité. C'est celle que remplissait la mafia en Italie au moment de la constitution donc de l'État italien, et que remplissent d'ailleurs toujours les mafias, elles remplissent toujours des fonctions de sécurité. Donc, toute société a besoin de remplir un certain nombre de fonctions. Quand ces fonctions ne sont pas remplies par des institutions, qu'elles soient démocratiques ou pas, hein, mais qui sont des institutions reconnues, qui ont des règles auxquelles on peut se référer, eh bien ces fonctions, elles vont être remplies autrement. Et donc, c'est en s'appuyant sur cette théorie fonctionnaliste qu'on peut expliquer que lorsque ce ne sont pas les institutions qui régulent et qui font fonctionner ces fonctions, eh bien, il y a des substituts qui vont prendre en charge ces fonctions à leur place. Et la criminalité est justement l'un de ces substituts. Il peut y avoir l'économie qui s'autogère, mais ce que l'on constate, et je dirais, c'est une. Aujourd'hui, plus personne, je crois, ne devrait pouvoir le nier. C'est que si on laisse l'économie toute seule se réguler, en réalité, ce ne sont pas les marchés qui régulent, mais ce sont ceux qui ont la capacité à l'intérieur des marchés de pouvoir les faire fonctionner à leur avantage. Et qui sont-ils, ceux qui peuvent la faire fonctionner à leur avantage ? Mais ils sont deux. Ils sont de 2 catégories. Ils sont soit ceux dont parlait Braudel, qui sont les puissants du monde, qui ne cherchent plus à passer des alliances avec les États, puisque les États leur ont dit « nous, nous nous mettons aux abonnés absents ». Donc, ils ont, les puissants de ce monde, négocié avec la finance. Mais le problème, c'est que la finance, elle est devenue la puissance de ce monde. Et les règles de fonctionnement du système financier se sont appuyées, à leur tour, sur des transgressions de l'ordre économique, puisque, finalement, elles avaient la légitimité, ces nouvelles puissances financières, donc elles se sont allouées, accordées le privilège de l'illégalité. Et de ce fait-là, La situation qu'on a vue émerger s'est déroulée en deux temps. C'est que dans un premier temps, on a vu que les puissances financières, les nouvelles puissances financières qui devenaient les instances de régulation du monde à la place du politique. Donc régulation du politique et régulation de l'économie. On commençait par utiliser la criminalité, une criminalité externe, comme variable d'ajustement économique. C'est-à-dire que on a vu se développer toute une économie criminelle qui aurait été réprimée ou empêchée dans le cadre d'une économie qui aurait encore été sous contrôle des États, mais qui, finalement, ne rencontrant plus que des résistances d'ordre moral de la part des États et de régulation ultime des États au moment où ces criminalités traditionnelles devenaient trop importantes pour que l'État ne réagisse pas. Je parle du trafic de la drogue, je parle des trafics d'êtres humains, je parle de tous les grands trafics qui ont émergé à partir des années 70 et qui se sont développés dans les années 80, 90, etc. Toute cette économie criminelle est devenue en fait une économie en tant que telle, avec des règles économiques qui sont les mêmes que celles de l'économie formelle. Et les nouveaux maîtres de l'économie et de la finance ont intégré cette économie dans la mesure où, en fait, elle leur permettait d'une part de créer de nouveaux marchés, notamment des marchés de services, des marchés juridiques, des marchés technologiques, des marchés financiers. Donc cette économie criminelle était un élément de la croissance, de la nouvelle croissance de l'économie financiarisée, mais également que les méthodes de criminalisation de l'économie permettaient aussi à la nouvelle économie financière de pouvoir créer son propre espace d'illégalité légitime à l'intérieur même du système. Ce qui fait que l'économie financière s'est aussi criminalisée. Et un exemple, un très bon exemple, c'est celui, alors, qui peut-être est sorti de vos mémoires aujourd'hui, parce que finalement on n'en a pas énormément parlé en France, qui est celui de la crise des caisses d'épargne américaines dans les années 80. Dans les années 80, alors je vais essayer d'être très bref, juste au moment donc où Ronald Reagan arrive au pouvoir, on est en plein dans la crise, dans la stagflation, ça, je pense que vous vous souvenez de cette époque de la stagflation, donc récession économique et en même temps inflation. Et c'est le moment où donc on débute la révolution capitaliste avec la nouvelle idéologie libérale, néolibérale. Et donc on va régler la stagflation par une augmentation des taux d'intérêt extrêmement élevés, d'ailleurs par quelqu'un qui s'appelle monsieur, j'ai oublié son nom, c'est le nouveau conseiller économique de monsieur Obama, qu'on a ressorti de la naphtaline, très curieusement, puisque c'est lui qui va, en 1980-82, augmenter les taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine et qui va créer une crise financière énorme aux États-Unis dans les caisses d'épargne américaines. Les caisses d'épargne américaines étaient un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de ce que serait chez nous, à la fois la caisse d'épargne et les sociétés d'HLM. C'est-à-dire que c'était des organismes qui faisaient du crédit aux ménages, donc des classes populaires et des classes moyennes, donc des ménages les moins aisés des classes moyennes, pour leur permettre l'accession à la propriété, donc qui avaient des avantages en matière financière pour faire des crédits à des taux des taux intéressants, bien entendu, pour les emprunteurs. La contrepartie, c'est que ce secteur-là était un secteur protégé. Mais quand vont monter les taux d'intérêt, le financement des caisses d'épargne va s'arrêter d'un seul coup, puisque eux rémunéraient les investisseurs à des taux d'intérêt qui deviennent des taux d'intérêt très élevés, alors que leurs taux d'intérêt, eux, pour prêter aux emprunteurs, sont des taux d'intérêt à 20 ans ou 30 ans qui sont extrêmement bas. Donc, d'un seul coup, en 2 ans, le secteur des caisses d'épargne américaines se trouve complètement insolvable. La logique aurait été, dans un système de régulation politique, économique et financière normale, de résoudre sur le plan politique, soit en intégrant, en absorbant les caisses, disons en faisant un petit peu ce qu'on a fait là dans la crise des subprimes, c'est-à-dire en recapitalisant les caisses et soit en les faisant absorber par le système concurrentiel bancaire, si on ne voulait plus d'avoir un système d'aide sociale à l'accession à la propriété, soit de trouver des modalités pour conserver un secteur social. C'est pas ce qu'on a fait. On a dit le marché va nous régler tout ça. Le résultat de ce qui s'est passé, c'est que on a dérégulé complètement le secteur des caisses d'épargne en leur disant maintenant vous allez pouvoir faire la même chose que les banques. En même temps, vous allez pouvoir faire appel à l'épargne dans les mêmes conditions que les banques. Donc vous allez pouvoir faire des prêts, des crédits comme les banques, dans les mêmes secteurs concurrentiels que les banques, et pas simplement pour l'aide à l'accession à la propriété. Vous allez pouvoir emprunter comme les banques, et vous allez en plus voir les garanties de vos dépôts portées de 40 000 $ à 100 000 $. C'est-à-dire que si vous faites faillite, tous les investisseurs seront garantis jusqu'à 100 000 $ de leur dépôt. Le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, tout ce que l'Amérique comptait de mafieux, d'escrocs, d'aigrefins, s'est jeté littéralement sur les caisses d'épargne pour les vampiriser totalement. Et c'est ce qui a alimenté, ce qui a créé, je vous passe sur la manière dont ils s'y sont pris, mais c'est ce qui a créé la bulle immobilière de la fin des années 80 aux États-Unis, avec une bulle financière, et il a fallu bien entendu faire ce que on n'avait pas voulu faire au départ, c'est-à-dire fermer toutes les caisses, la moitié des caisses, et recapitaliser les autres en les faisant absorber, etc. Ça a coûté 125 milliards de dollars à l'époque aux contribuables américains, sans parler de tout ce que ça a pu coûter, qui est évalué en tout à 500 milliards de dollars à l'époque. C'était considérable pour l'époque. Et ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle des caisses d'épargne ? Parce que le mode de résolution de la crise, ça a été de laisser en fait les substituts criminels, mafia, escrocs, aigrefins de toute accointance, piller littéralement le secteur des caisses d'épargne. Si vous voulez, alors c'est un petit peu technique parce qu'il faut connaître le système américain qui repose d'abord sur un système décentralisé de crédit. Vous avez des courtiers en crédit et qui font appel à des évaluateurs, ils appellent ça des appraiseurs, qui évaluent les biens immobiliers. Donc quand vous voulez acheter un bien immobilier, vous le faites évaluer par un évaluateur qui va garantir la valeur du bien, la valeur économique du bien. Et ensuite, en général, vous vous adressez à un courtier qui va vous trouver un organisme de prêt. Et ces organismes de prêt, ensuite, se refinancent auprès... Enfin, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on les a véritablement créés, auprès des fameux Freddie Mac et Fannie Mae, qui sont, en fait, des organismes qui refinancent les organismes de prêt... qui font du crédit. Et les modalités qui ont été trouvées, ça a été d'une part de surévaluer les biens immobiliers et ensuite de monter des systèmes de crédit dans lequel, si vous voulez, on construisait n'importe quel type de... Par exemple, un centre commercial. On construit un centre commercial en l'évaluant, par exemple, à 10 millions de dollars. Le système s'effondre parce qu'on l'a construit dans le désert et que personne n'a acheté le moindre mètre carré du centre commercial. C'est pas grave puisque on va refaire des appels de fonds auprès du public auxquels on verse des intérêts faramineux à l'époque, donc on crée une bulle financière et on va faire réévaluer ce centre commercial à 10 millions de dollars qui en réalité n'en vaut pas plus que 2 par exemple, on va l'évaluer à 15 millions de dollars. Et donc on refait un appel de fonds avec des investisseurs qui sont de toute façon garantis puisque c'est en fait on agglomère des crédits à 100 000 dollars. Donc on repart pour une évaluation cette fois-ci à 15 millions de dollars qui va se recasser la figure. Tout le monde entre-temps, les courtiers ont touché leur commission, les emprunteurs ont refourgué leur crédit à Freddie Mac et Fannie Mae qui eux-mêmes ont retitrisé. Et les mafieux se sont servis, les promoteurs se sont servis. En général, d'ailleurs, c'est eux qui ont pris la direction des caisses. Et donc, tout le monde y a gagné pendant ce temps-là. Et puis, une fois que le nouveau centre commercial, on a construit un petit truc à côté. Donc, on a deux centres commerciaux maintenant d'une valeur de 15 millions de dollars. Ça fait rien. On peut en construire un troisième, un quatrième, etc. Jusqu'au moment où on a créé une telle bulle immobilière et une telle bulle financière que le système s'est écroulé. Et c'est à peu près ce qu'on a refait avec les subprimes. Sauf que là, on n'est pas allé chercher les aigres fins et les mafieux. Ça, c'est du bricolage. On est au début, on est dans les années 80. On est au moment où le système financier est en train de se mettre en place comme le mode de régulation. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a délégué comme l'État italien avait délégué à la mafia. Il a délégué. Il a trouvé des substituts. Et dans l'affaire des subprimes, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la suite de l'affaire des caisses d'épargne. Pourquoi? Parce que d'abord, sur le plan économique, social et financier, il n'y a plus de système d'aide à l'accession à la propriété aux États-Unis, puisque tout le système financier est pris en main par de purs capitalistes financiers. Même les caisses d'épargne qui restent ne sont que des établissements financiers comme les autres qui sont là pour faire du cash et du business. Donc, il n'y a plus de secteur social d'accession à la propriété. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le système, le secteur immobilier et le secteur de la construction américain plongent. Il faut le redresser. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut recréer une demande d'achat de biens immobiliers. Mais comme on n'a plus d'aide, eh bien, on va dire aux gens, eh bien, venez prendre vos crédits dans le secteur financier concurrentiel. De toute façon, il n'y en a plus d'autres. Mais ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir vous endetter au-delà de vos moyens, puisqu'on va recommencer à vous évaluer vos biens à des valeurs supérieures à leur valeur, et on va vous faire des crédits sur cette valeur des biens sur lequel on vous a prêté de l'argent, et quand vous n'aurez plus d'argent pour rembourser, on réévaluera votre bien à une valeur supérieure et on vous reprêtera de l'argent pour rembourser les intérêts que vous ne pouvez pas rembourser. On refait exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on n'a plus besoin des mafieux, ils ne sont pas présentables. On n'a plus besoin des escrocs, etc. On a besoin quoi? On a besoin des courtiers, les courtiers en crédit. Oui, ceux-là, on en a encore besoin. Donc, ils vont travailler dur pour aller écumer qui? Eh bien, les catégories black, latinos, tous les insolvables, toutes les catégories des travailleurs pauvres, les catégories, la couche inférieure des classes moyennes, qui n'ont pas les moyens d'accéder à un crédit normal. Et qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur inventer les subprimes. Qu'est-ce que c'est que le subprime? C'est en fait ceux qui sont en dessous du prime. Qu'est-ce que c'est que le prime dans le système de crédit américain? C'est en fait, les Américains ont un système de notation des emprunteurs. Alors ils ont, il faut toujours qu'ils fassent les choses de façon rationnelle. Alors ils ont un système de notation. Donc si vous avez divorcé, si vous avez changé d'emploi depuis moins de 6 mois, moins d'un an, etc., on vous met une note et puis à la fin vous avez un total. Et si vous êtes au-dessus d'une certaine note globale, vous êtes prime. Si vous êtes en dessous, vous êtes subprime. Donc si vous êtes subprime, vous n'avez pas droit au crédit classique. Mais on vous a inventé les subprimes. Les subprimes, c'est ce que vous avez le droit d'emprunter en payant des taux d'intérêt plus chers. C'est normal, vous êtes plus pauvre, donc vous devez payer plus. L'argent est toujours chez les pauvres. Donc vous allez payer plus cher, mais vous allez aussi donc bénéficier d'un avantage supplémentaire. C'est que au départ, vous n'allez rien rembourser. Pendant 2-3 ans, vous allez rembourser très peu. C'est simplement dans 2 ou 3 ans que vous allez voir l'addition qui va tomber. Parce qu'on a indexé votre prêt sur l'augmentation de je ne sais pas quel taux boursier ou financier. Et donc, c'est au bout de 2 ou 3 ans que ça tombe. Et à ce moment-là, vous vous réveillez un beau jour, vous aviez un taux à 2%, vous pouviez rembourser, vous vous trouvez avec du 6, 7, 8%. Et là, catastrophe. Vous retournez voir votre banquier. Vous lui dites, est-ce que vous pouvez renégocier mon prêt? Ah, il vous dit, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai titrisé votre affaire. Je l'ai remis dans les tuyaux financiers. Donc, je ne l'ai plus, votre prêt. Je ne sais plus où il est. Il est à Singapour, Hong Kong. Et on l'a découpé en morceaux. Je ne sais plus où il est, votre prêt. Mais ce que je peux faire, c'est que je vous fais un autre prêt. Avec le nouveau prêt, vous me rembourserez vos intérêts. Vous pouvez le faire, on va réévaluer votre maison. Votre maison vaut plus cher, donc on augmente l'hypothèque, et sur l'hypothèque, je vous reprête de l'argent. Alors, on a fonctionné comme ça pendant un certain temps, 2000, 2001, 2002, 2003. Et puis, comment est-ce qu'on pouvait fonctionner? Ça supposait deux choses pour que ça marche. Ça supposait donc, d'une part, qu'on réévalue en permanence les biens immobiliers. D'abord, il fallait les surévaluer, et les réévaluer, ça pouvait aller parce qu'il y avait la bulle qui avait monté. Mais le problème, c'est que cette bulle, il fallait continuer de l'alimenter. Et une fois qu'on avait écumé tous ceux qui étaient encore décemment écumables dans les couches les plus défavorisées de la population, comment est-ce qu'on les avait écumés d'abord? On les avait écumés de deux manières. D'abord, simplement en trichant un peu à la marge. Bon, on ne va pas dire que vous n'avez pas remboursé votre prêt, votre dernier prêt, parce que sinon vous devenez subprime et vous êtes plus prime. On ne va pas dire que votre femme ne travaille pas, etc. Et puis, au bout d'un moment, on avait introduit des dossiers complètement frauduleux dans le circuit. C'est-à-dire que on avait dit, bon, on ne va plus dire du tout que vous êtes au chômage. Hein. On va dire que vous avez votre dernier bulletin de salaire, c'était tant. On ne va pas dire que vous êtes au chômage et on va vous faire le prêt. Donc, déjà, si vous voulez, il avait fallu monter des prêts de plus en plus frauduleux, de plus en plus mensongers. On peut évaluer à peu près à 30%, je crois, 30 à 50% peut-être, mais au moins 30%, la part des prêts subprimes qui étaient des dossiers de constitution de crédit frauduleux, qui reposaient sur des informations frauduleuses. Au bout d'un moment, ça devenait problématique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, c'est là que on voit tout l'intérêt, si vous voulez, de la chose, c'est que on a fini par dire finalement, qu'est-ce qui différencie une situation criminelle d'une situation non criminelle? Je pense pas que les Américains aient lu les pieds nickelés, mais c'était les pieds nickelés qui avaient inventé le concept. Je sais pas si vous avez à la bibliothèque d'Arcueil toute la collection des pieds nickelés.
On
Oui, vous l'avez. Alors vous irez regarder les pieds nickelés députés, je crois. Et vous verrez, je crois que c'est Filochard qui monte à la tribune de l'Assemblée nationale et qui dit « J'ai trouvé la solution pour faire disparaître le crime, supprimons le code pénal. » Ben, bien entendu. Bien entendu. Qu'ont fait les financiers ? Ils ont dit « Ces prêts-là sentent de plus en plus mauvais. Les prêts subprime sentent de plus en plus mauvais. Donc, on va inventer un nouveau type de prêt. » Ça, on ne vous en a pas parlé, j'en suis sûr. Ce sont les prêts, ce qu'ils appellent les prêts ALT-A. Les prêts alternatifs A. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas très bien encore réussi à élucider ce que signifiait cette expression. On a inventé les prêts ALT-A. Qu'est-ce que c'est que les prêts ALT-A ? Eh bien, ce sont des prêts dans lesquels on n'a même plus besoin de dire ni qui on est, ni ce qu'on gagne. Et on vous prête de l'argent dans la journée pour acheter une maison. Vous demandiez le prêt à midi, vous l'aviez le lendemain matin. Ce qui fait que, finalement, on n'a plus besoin de fraude, on n'a plus besoin de criminalité, on n'a plus besoin de délinquance. Le système s'est totalement refermé sur lui-même. Il n'a même plus besoin de substituer. La criminalité comme variable d'ajustement n'est même plus nécessaire. Donc, je dirais que le système idéal auquel on est arrivé aujourd'hui, c'est un système dans lequel les procédés de contournement des contraintes de la loi par la variable d'ajustement criminel n'a plus besoin d'être, puisque on a éliminé les contraintes sous la protection de la loi elle-même. À partir de ce moment-là, le système devient un système idéalement criminel, c'est-à-dire dans lequel il n'y a plus de crime du tout.
C'est l'incorporation.
On est dans un système d'incorporation totale dans lequel le concept même d'anomie, de ce qu'on veut, n'a plus de sens. Sauf qu'on s'aperçoit que c'est le moment où le système s'effondre. Et que, en fait, donc, alors plusieurs leçons à tout ça. Premièrement, si on veut faire de la criminologie, il faut faire de l'économie, il faut faire de la finance, il faut se plonger dans les produits financiers, la titrisation, les CDS, les CDO, les ABS, les MBS, etc. Il faut aussi faire de la politique. Il faut faire du droit, il faut faire de... Finalement, il faut faire de tout à la fois. Et que la question aussi, quand on arrive, je dirais, à ce terme, on est à un terme aujourd'hui, mais lequel ? Est-ce que on est au terme d'une situation dans laquelle, finalement, le système a explosé et ne pourra que se reconstruire sur de nouvelles bases ? Ou est-ce qu'on est arrivé à un terme dans lequel toutes nos catégories antérieures ont fondu littéralement dans ce noyau nucléaire qui est en train d'exploser, et que le seul moyen pour que le système puisse continuer, c'est que nous en venions nous-mêmes à abandonner nos catégories ultimes, qui étaient les catégories morales, dont on voit que, en fait, il était nécessaire de les chasser de la réflexion, si on voulait comprendre ce qui se passait. Mais il faut les chasser aussi, je crois, dans l'idée de la reconstruction, parce que si on veut simplement reconstruire en fonction de la morale, on va faire ce que on voudrait que l'on fasse aujourd'hui, par exemple dans la réunion du G20, où on se contente de plaquer un discours moral sur des pratiques que l'on reconstituera en désignant simplement des boucs émissaires. Ou bien est-ce que même on va nous demander d'abandonner toute référence en termes de valeur, en termes de morale, en termes de politique, pour nous dire, finalement, vous avez le choix aujourd'hui. soit vous voulez vivre dans un monde qui produit des biens, qui produit des richesses, soit vous voulez vivre dans un monde de valeurs. Mais vous serez obligé de choisir entre l'un et l'autre. Si vous choisissez le monde des richesses, ce sera un monde sans valeur. Si vous choisissez le monde des valeurs, ce sera un monde sans richesse. Voilà, donc je crois que l'alternative, elle est là aujourd'hui, et finalement, elle rejoint ce sujet dont je n'ai pas parlé, qui est celui, et qui est le seul sujet, de savoir est-ce que c'est la démocratie qui est au bout du parcours, et est-ce qu'elle est aussi le remède ? Est-ce qu'elle est au terme de ce que nous connaissons aujourd'hui ou pas ? Finalement, c'est la question à laquelle je n'ai pas répondu et je ne répondrai pas. Voilà, merci.
Automatique, autoclectique, autoradio, autoradio.